cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe le 9 novembre l'an 2000 à Saint-Jodard.
Je ne réponds pas aux nombreuses questions qui étaient posées pour avancer plus. Mais j'y répondrai quand même, on les garde. Des questions peuvent tarder un peu. La dernière fois, je vous parlais de cet acte humain que nous retrouvons évidemment dans l'amitié, puisque j'essaie de voir avec vous comment, dans l'expérience de l'amitié, tous les actes humains sont présents. Je rappelle l'intention. Du coup, quand j'analyse philosophiquement ce qu'est l'amour d'amitié, je m'aperçois que dans l'amour d'amitié, tous les actes humains sont. C'est important. Si c'est vrai, ça montre bien que l'expérience de l'amour d'amitié est fondement de la morale. Puisque c'est ça que nous cherchons. Il n'y a pas que moi qui le cherche. La plupart du temps, on reste à la loi ou à l'intuition humaine. L'intuition humaine est fondement, et pas directement fondement dernier. C'est évident, c'est parce qu'on est une nature humaine qu'il y a une responsabilité de nos actes. Un âne n'a pas de responsabilité de ce qu'il fait. On le sait. Et c'est pour ça qu'on est obligé de le battre de temps en temps, pour qu'il comprenne. Bon. Tandis qu'un homme n'a pas à le battre. On a à lui montrer ce qu'il doit faire. Et c'est la responsabilité qui me donne la responsabilité de mes actes. Et c'est l'amour d'amitié où j'ai cette responsabilité la plus grande. Humainement. Puisque dans l'amitié, je suis responsable de mon ami. Et responsable d'un ami, c'est plus que tout. Hein. Parce que responsable des hommes, l'amitié touche quelque chose de plus profond. Touche dans l'homme ce qu'il a de plus lui-même. Et je suis, dans l'amitié, je suis responsable de mon ami. Alors, parmi tous les actes, après le choix, il y a l'exécution. Il faut vivre ensemble. Avec une très grande souplesse, vivre ensemble. On peut vivre ensemble en se voyant tous les 8 jours, tous les 15 jours, tous les mois, tous les ans. Parce qu'on vit ensemble avant tout dans l'intention. Il y a forcément un moment où on vit ensemble proche l'un de l'autre. Et vivre ensemble, c'est l'exécution. Il s'agit de vivre ensemble à la manière dont on peut le faire. Et donc, il y a le passage à un acte très important qu'on appelle l'imperium. Par l'imperium, ce qui a été avant médité, porté en nous, d'une façon secrète, parce que le choix même reste secret entre les deux amis qui se choisissent. On le dit puisqu'il y a l'ami, mais ça reste secret. on peut se le dire en se serrant la main. Entre amis, on comprend ce que ça veut dire. On est d'accord. Alors, l'exécution, c'est le passage à l'extérieur, le passage visible. Ça se voit. Nous sommes deux amis, mais nous essaierons de nous voir de temps en temps. La possibilité, ça se voit. La vie ensemble, même quand elle est très espacée, ça se voit. Et ça peut aller jusqu'à vivre beaucoup plus proche l'un de l'autre. On essaie de vivre vraiment une vie commune. La vie commune, ça fait partie du fort externe. Et la vie commune est faite d'exercices visibles, extérieurs, d'actes visibles. On se parle, on se dit, on agit ensemble. Alors, je vous disais, il y a deux conceptions philosophiques très nettes et on comprend très bien. Il faut faire cela. Alors on dit « il faut faire cela », c'est un acte de volonté. L'exécution dépend de la volonté. C'est, pour vous repérer, c'est toute la manière dont Suarez comprend le point de vue moral. Et c'est pour ça que la formation de la volonté devient quelque chose de capital. Alors que d'autres perspectives que je crois plus vraies, c'est l'acte d'exécution est d'abord un acte d'intelligence. Que la volonté soit présente, c'est évident. Je ne peux pas commander et me commander à moi-même. J'ai pris la résolution de faire cela. Et quand on prend une résolution, cette résolution dépend d'abord de l'intelligence et de la volonté ensuite. Et elle dépend d'abord de l'intelligence parce que on ordonne soi-même, sa propre vie, selon ses capacités. On s'ordonne soi-même dans ses activités. Or, ordonner ses diverses activités, ça provient de l'intelligence pratique, prudentielle, et non pas de la volonté. La volonté, tout de suite, on s'engage, vous voyez, on se lie. Mais ordonner ces diverses activités dans une réflexion, ça dépend de l'intelligence. Et cette intelligence est liée, évidemment, à la volonté, puisqu'il s'agit d'exécuter, il s'agit de faire quelque chose. Donc, dans l'Imperium, intelligence et volonté sont très liés. Ils ne se confondent pas, mais sont très liés. Et je dis qu'il me semble bien que l'acte de se commander, l'acte de commander aux autres, faites ceci, implique l'intelligence. Quand vous recevez un ordre, et du reste c'est dit comme ça, quand vous recevez un ordre, vous le recevez d'abord par l'intelligence. C'est pour ça que vous avez toujours envie, étant donné l'atmosphère d'aujourd'hui, vous avez toujours envie, premièrement, de nier. Ah non, non, je ne ferai pas. Réaction constante aujourd'hui. Enfin, c'est un ordre. Notre première réaction, non. Parce qu'on aime beaucoup la négation. C'est le défaut moderne. On met la négation avant l'affirmation. Ça, c'est très net. Ça date de plus longtemps. Ça date de Occam, 14e siècle. Au plan théologique, on met la négation avant l'affirmation. Et ceci provient de la laïcisation d'une théologie. En théologie, saint Hommol dit très nettement, la négation est plus certaine que l'affirmation. Quand vous dites « Dieu n'est pas composé », c'est une certitude absolue, ça. Tandis que quand vous dites « Dieu est sage dans sa conduite », c'est une certitude analogique. Vous voyez, c'est très curieux, la manière différente dont on joue la négation et l'affirmation quand nous parlons de Dieu. On a une inclination de rejeter, de nier, parce que la négation est plus certaine. Quand j'affirme quelque chose de Dieu, c'est toujours d'une façon analogique. Dieu, je ne l'expérimente pas. Dieu, je ne sais pas directement ce qu'il est. Je le sais que analogiquement, en faisant le parallèle avec mon expérience. Je sais à peu près ce que représente la sagesse humaine. Je dis la sagesse humaine est une perfection qui doit exister en Dieu. Mais en Dieu, elle existe d'une façon totalement différente que dans l'homme. Mais elle existe. Il y a une certaine connaissance de ça. Dieu est bon. La bonté de Dieu est totalement différente de la bonté de l'homme, du cheval, du chien. C'est évident. Déjà, la bonté du chien est tout à fait différente de la bonté de l'homme. La bonté du cheval est autre chose que la bonté de l'homme. Donc on dit, analogiquement, il y a quelque chose de pareil, mais c'est tout à fait différent. De même, quand j'affirme Dieu est bon, il y a quelque chose de pareil avec ma bonté, mais c'est totalement différent. Et c'est d'abord totalement différent, et dans le totalement différent, je saisis la ressemblance. Il y a quelque chose de pareil. Alors, comme la négation dans notre monde d'aujourd'hui est première constamment chez beaucoup, c'est faux, hein ? La négation n'est pas première, mais dans le climat d'aujourd'hui, dans le climat qui se crée en fonction des philosophes, en fonction d'un tas de choses particulières. La négation est très souvent première. Et parce que la négation est première, constamment, on a beaucoup de peine à accepter ce qu'un autre nous dit. Le premier réflexe, c'est pas vrai. Tu exagères. Après, en réfléchissant, on dit, il a peut-être raison. Mais on a cette espèce de défense. On veut garder son autonomie intègre. Dès qu'on obéit, on n'a plus d'autonomie intègre. On accepte qu'un autre, on coopère avec. Alors, ça explique cette difficulté qu'on a d'obéir. Accepter l'autre. Quand vous acceptez l'ordre qui vous est donné, cet ordre regarde en premier lieu l'intelligence. C'est un ordre. Ça se dit bien, oui. L'ordre est ordonné. Autrement, ce ne serait pas un ordre. On vous dit de faire telle chose plutôt que telle autre. On met telle chose en lumière et on vous demande de le faire. Donc il y a un ordre. Et instinctivement, vous avez votre ordre à vous, ou vous le créez tout de suite, dès qu'on vous commande quelque chose. Non, je préfère faire ça avant. Et on dit non. Oui. Réfléchissez sur la négation que vous faites lorsqu'on vous ordonne quelque chose. C'est très curieux. Et là, vous voyez bien que c'est un ordre. Et l'ordre regarde l'intelligence. Seule l'intelligence sait ce que c'est qu'un ordre ordonné. La volonté ne sait pas. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui vit dans une affectivité très forte, très puissante, il n'y a plus d'ordre. Il suit son affectivité. Et il n'y a pas la possibilité d'avoir suffisamment de recul. L'amour vous précipite au-dessus. Alors, de fait, dans l'exécution, il y a d'abord l'ordre, puis il y a la volonté. Et c'est pour ça que c'est un acte d'intelligence plus qu'un acte volontaire. Après la volonté, quand vous avez décidé quelque chose, vous le réalisez. Vous appliquez votre attention à réaliser cela. Vous savez vos capacités, vous vous en servez. Quand il s'agit d'un ordre qui nous demande de nous déplacer, on sait comment se déplacer. On prendra l'avion, on prendra le train, on prendra le vélo, on prendra la marche humaine. On a un périple assez grand, depuis la marche humaine jusqu'à l'avion. La marche humaine coûte moins cher que l'avion. Mais en avion, vous êtes porté par un autre. Vous ne voyez pas combien dans l'avion vous faites un acte d'obéissance. Mais celui-là est agréable. Et vous faites un acte d'obéissance à celui qui vous conduit. Vous vous laissez prendre au piège. Et vous êtes conduit. Faites Paris-New York dans l'obéissance à l'avion. Remarquable obéissance. Parce qu'en plein milieu, vous dites « Pourquoi je fais ça ?» Et vous ne pouvez pas vous jeter par la fenêtre. Vous êtes bien obligé d'exécuter jusqu'au bout. Mais on est en docilité, on a accepté ça. On fait des quantités d'actes d'obéissance sans y penser, mais l'homme d'aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ça qu'il a beaucoup de peine d'obéir personnellement, parce qu'il fait tellement d'actes d'obéissance dans la journée, qu'enfin on peut faire un acte libre. C'est vrai. Comptez le nombre d'obéissances que vous faites dans la journée. On est ligoté. Je fais mes cours en acte d'obéissance. C'est sûr. J'ai jugé qu'il était bon de faire ça. J'obéis à Dieu, mais j'obéis à Dieu. C'est un acte d'obéissance. Et vous, vous écoutez un acte d'obéissance. Vous obéissez. Et alors, quand on fait énormément d'actes d'obéissance, on essaie de trouver un moment où on peut exercer sa liberté. Et on a l'impression qu'exercer sa liberté, c'est merveilleux. Alors que pas du tout. C'est pas l'acte de liberté qui est supérieur à tout, c'est l'acte d'amour. La vraie liberté vient de l'amour. Il n'y a pas de liberté sans amour. La liberté sans amour, c'est une liberté dialectique en opposition avec l'obligation qu'on a de faire quelque chose. Pour enfin, on est libre. Mais cette liberté ne va pas très loin. Liberté dialectique. La vraie liberté, c'est quand on aime vraiment quelque chose, et parce qu'on aime cette personne, on est capable de faire des actes libres. Vous êtes capable de faire des actes libres dans la mesure où vous aimez. Quand on aime une réalité très matérielle, on est esclave de cette réalité matérielle. Celui qui aime l'alcool est esclave de l'alcool. Il faut sa bouteille. Et il faut qu'on s'en moque, qu'il ait toujours sa bouteille pleine. Donc on est esclave. Oui, quand on réfléchit sur l'application de nos capacités, de nos dieux, on voit que cela dépend de cet acte d'imperium. Je veux faire ça. Et cet acte est un acte d'obéissance ou un acte de liberté. Mais il y a tout ça dans l'acte humain. Il y a l'exécution. L'exécution est un acte humain. On exécute en marchant, on exécute en restant ainsi. Les péripatéticiens faisaient leur cours en marchant. C'est pas commode de faire un cours en marchant, vous voyez. Quand on est très nombreux, quand on est deux ou trois, on peut le faire. Vous voyez, l'exécution implique une liberté. Pas nécessairement avec tous les autres. Nous avons donc vu, depuis le début, l'acte d'amour d'amitié. Je répète, l'acte d'amour d'amitié dont j'ai l'expérience. Et parmi mes expériences, cette expérience de l'amour d'amitié est quelque chose de capital. C'est une des expériences les plus extraordinaires d'aimer quelqu'un. Tout acte d'amour, d'amitié présuppose un amour, une intention de vie. Très souvent, une délibération, avoir réfléchi, c'est bien mon ami. Enfin, un choix amical. Et le choix amical est quelque chose de très important. Puis, l'exécution. Mon ami, étant devenu mon ami, son avis est extrêmement important pour moi. Et quand il me donne un ordre, je dis oui, très bien. J'y réfléchis, puis je dis c'est bien, c'est pas bête, il faut faire ça. Nous ferons ça en commun. Et c'est vraiment mieux de faire en commun. Ça réussit mieux. Pour faire en commun. Donc, et donc, un acte nouveau qui consiste à comprendre que l'amitié est pour moi un acte essentiel à ma vie. Dans cet acte est compris tous les actes humains. C'est pour ça que je vous avais demandé de réfléchir, y a-t-il un acte humain en dehors de l'amitié? Je dis bien un acte humain. Je ne parle pas encore de l'acte religieux. Je prends l'acte humain immédiatement. En dehors de l'amitié. Alors si cela est vrai, l'expérience de l'amour d'amitié me permet d'avoir pour la morale un acte toujours présent. Oui, j'aimerais dire le jugement d'existence est à la philosophie en général et surtout à la métaphysique ce que le jugement d'amitié, le choix, est à l'éthique et à la morale. Il y a dans ma vie toujours une référence à ça. C'est ce que nous allons voir. Tout acte moral commence par un amour. Il n'y a pas de morale sans amour. Et l'amour d'une personne, pas d'un bien abstrait, d'une personne, l'ami ou Dieu, ou le Christ, d'une personne. Vous pouvez éduquer quelqu'un sans qu'il ait cette expérience d'amitié. Et c'est pour ça que c'est quelquefois un dressage. Quand vous éduquez quelqu'un qui n'a aucune expérience d'amitié, le gosse a une expérience d'amitié avec sa mère, avec son père. Et très vite, il a une expérience d'amitié avec les petits amis. On peut éduquer à ce moment-là. Quelqu'un qui n'aurait aucune expérience d'amitié, on peut l'éduquer par le dressage. Et hélas, l'éducation est très souvent un dressage. On peut dresser un éléphant à jouer du piano. Ça montre qu'on peut beaucoup de choses dans le dressage. C'est vrai, dans les cirques, on voit ce dressage extraordinaire et ça épate les gens. C'est un dressage. L'être humain peut être dressé en athlète, en comédien, en jouant le rôle dans le cirque. C'est pas l'éducation, c'est le dressage. Il fait des choses invraisemblables. Prestigiateur arrive à faire des choses, c'est du dressage. Ça, c'est en dehors de l'amitié, c'est en dehors de l'amour. Distinguons bien les deux choses. Hein. Et l'éducation, c'est dans l'amour. Socrate avait très bien compris ça. Hein. Quand on interrogeait Socrate, disait toujours « Es-tu mon ami ? Si tu es mon ami, je peux parler. Si tu n'es pas mon ami, c'est pas la peine de parler. C'est du dressage. Assister au cours, ça peut être du dressage. » Et ça peut être une éducation. Oui. Ça dépend du professeur et de ceux qui écoutent. S'il y a une certaine amitié, parce qu'on le fait ensemble en cherchant la vérité, bon, il y a des amitiés qui se créent. C'est plus du dressage. C'est s'éduquer. Et s'éduquer, c'est le dépassement de la vie actuelle. Je suis comme ça maintenant, je veux m'éduquer, je veux aller plus loin, je veux devenir meilleur. Ça se fait toujours à partir d'un amour. Et si l'amour baisse, il y a un moment critique où ça devient du dressage. C'est très curieux, mais c'est très intéressant à voir, hein. La différence entre le dressage et l'éducation. Il y a des professeurs auxquels on sent que c'est du dressage. Et l'enseignement fait partie de l'éducation. C'est autre chose que l'éducation, mais ça fait partie de l'éducation. Pour que l'enseignement soit correct, soit vrai, porte ses fruits, ça implique l'éducation. Il y a toujours une part d'éducation. L'éducation implique un amour. Il faut qu'ensemble, nous fassions une œuvre commune, la recherche de la vérité. Pour l'éducation, c'est ça. Pour l'enseignement, c'est ça. Pour l'éducation, il faut qu'ensemble, nous essayions de mieux comprendre ce que c'est que l'homme, dans sa bonté, dans ses actes moraux, il est responsable de lui-même et des autres. Alors, je crois que l'amour d'amitié contient en lui-même tous les actes moraux. Et c'est la richesse de l'amitié. Si on ne sait absolument pas ce que c'est que l'amitié, il y a des quantités de choses qu'on ne peut pas comprendre. Parce que l'amitié me fait connaître l'homme d'une façon remarquable, beaucoup plus forte. Avec un ami, on peut réaliser des quantités de choses. Vous voyez, l'Ecclésiastique, quand il dit l'homme ami d'un autre homme, est une forteresse. Ça montre bien ça. L'homme tout seul veille sur lui. Humainement, le solitaire, il ne peut pas accomplir grand-chose. Et très vite, il se retourne sur lui-même. Et il ne devient plus qu'un homme, un vieux garçon, une vieille fille. Il fait tout par amour pour lui, le plus de paix possible. Pas d'histoire, hein, pas d'histoire. Que tout soit absolument... Ça, c'est la paix et le bonheur du vieux garçon. Et de la vieille fille. Tandis qu'au contraire, l'éducation est une montée toujours plus grande. Je ne peux pas me contenter de ce que je suis. Je veux devenir ce que je dois être. Hein? La parole du Saint-Père. Et c'est très fort, ça. Parce que ça, il y a l'éducation qui se fait par un maître. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a une auto-éducation. On s'éduque toujours. On apprend tout le temps. Dans tous les contacts. Et on aime de plus en plus la personne qui vit avec nous. On l'aime vraiment. Alors, je crois que dans cette analyse de l'acte humain, tous les actes humains sont présents. Nous allons voir comment cet amour d'amitié, plus ou moins fort, hein, mais un amour d'amitié, comprendre que avec les rapports d'homme à homme, les rapports qui éveille en moi ma responsabilité, sont toujours dépendants d'une amitié, peut-être très large, mais quand même une amitié. L'amitié va exiger de moi l'acquisition des vertus. Ordinairement, on définit la morale par la vertu. C'est pas vrai. Parce que la vertu est un moyen. je ne suis pas vertueux pour être vertueux. Je suis vertueux pour pouvoir aimer plus. Je lutte contre certains penchants d'orgueil, de vanité, de gourmandise, de colère, toutes les passions qui s'éveillent. C'est toujours pour pouvoir exercer une amitié plus grande avec une personne humaine. Je ne serai pas longtemps l'ami des hommes, l'ami de tel ou tel homme, si je n'avais pas un minimum de vertu. Oui. Prenons un cet exemple-là. Je suis l'ami vraiment de Pierre ou de Jacques. Et puis, dès que Pierre et Jacques me voient, si tout ce qu'il a, je désire l'avoir, puisque tout mon ami, c'est à moi, je le prends. Une fois ou l'autre, ça passe. Mais quand c'est tout le temps comme ça, on dit « Ah non, respecte-moi. » Parce que, n'ayant pas le sens de la vertu de justice, vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pouvez pas respecter le voisin, votre ami. Dans l'amour d'amitié, il y a le respect de l'autre. Donc, il y a le sens de la justice, ce qui lui appartient. Alors, on dira dans l'amitié, tout ce qui est à l'ami est à son ami. Oui, 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 oui. Vous voyez, exactement la même chose quand vous dites, l'ami de nos amis, ce sont nos amis. Ouh, attention, attention, c'est pas vrai ça. L'amitié est personnelle. Il y a un petit peu de vrai, c'est évident. Quand l'ami de nos amis, on est plus attentif. Quelqu'un que vous ne connaissez pas fait le rappel à un ami. Oh, je connais très bien celui-là, je sais que c'est votre ami. Je le connais très bien, oui. Je l'aime beaucoup. Bon, alors on est plus attentif. Mais au bout de 10 minutes, on s'aperçoit que ce n'est pas la même personne. Toute chose. Tiens, curieux. Oui, c'est l'ami de mon ami, c'est vrai, mais c'est peut-être pas forcément mon ami. Vous voyez ? Alors ces sortes d'adages comme ça sont vrais, il y a un fondement, mais il n'y a pas plus qu'un fondement. Il ne faut pas aller trop loin. L'amitié exige les vertus, exige la justice. C'est sûr. Si vous avez une amitié avec quelqu'un qui n'a aucun sens de la justice, ça ne durera pas très longtemps. Ça durera un moment jusqu'au moment où vous êtes complètement dépouillé. Quand il aura saisi toutes les plumes, alors à ce moment-là, vous direz non, c'est assez.